Groupe Banque Centrale Populaire vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Le gouvernement malien dément avoir mandaté qui que ce soit pour prendre contact avec certains groupes armés. L'information avait pourtant été confirmée à RFI en début de semaine dernière par le ministre des Affaires religieuses et le Haut Conseil islamique du Mali, chargé de nouer un dialogue en vue de futures négociations de paix. Pourquoi ce rétropédalage des autorités maliennes? Que signifie cette cacophonie? Existe-t-il des dissensions au sein du pouvoir? Le gouvernement a-t-il reculé de peur des réactions de ses partenaires étrangers hostiles à tout dialogue avec les terroristes, notamment la France? Vos réactions nous intéressent, vous pouvez encore nous appeler au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI. Au Nigeria, le procès du leader indépendantiste Biafré, Nnamdi Kanu, qui s'est ouvert jeudi dernier à Abuja, a été ajourné au 10 novembre à la demande de l'accusation. Le chef du mouvement des peuples indigènes du Biafra, du nom de l'ancien État sécessionniste à la fin des années 60, avait été « intercepté » entre guillemets à l'étranger et ramené au Nigeria fin juin. Bodou, bonjour.
Bonjour Chantal et bonjour à tous les auditeurs de la Radio France Internationale.
Vous nous appelez de Ngouri au Tchad. Lisa Fabian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Lagos. Bodou, on vous écoute, vous avez la parole.
J'ai appris sur votre antenne que le leader indépendantiste Biafré Nnamdi Kanu est poursuivi par l'État nigérien pour terrorisme et trahison. À ce sujet, j'ai deux questions. La première est la suivante. Il a été arrêté à l'étranger. Comment les autorités l'ont-elles retrouvé?
Lisa Fabian, alors que sait-on de cette arrestation?
Alors, le 29 juin dernier, les autorités nigérianes annoncent avoir arrêté Nnamdi Kanu à l'étranger, deux jours plus tôt. Des photographies montrant le leader indépendantiste menotté sont diffusées, mais rien ne filtre sur les circonstances exactes de son arrestation, ni sur l'endroit où elle a eu lieu. Les avocats du chef de l'IPOP et son organisation ont ensuite expliqué que c'est au Kenya que celui-ci a été intercepté par les services secrets nigérians avant d'être ramené dans son pays d'origine. Sauf que les autorités kenyanes ont depuis fermement nié avoir pris part à cette opération et les autorités nigérianes n'ont jamais donné plus de détails à ce sujet.
Alors les avocats de Nnamdi Kanu dénoncent notamment une arrestation illégale et inconstitutionnelle. Est-ce que cela pourrait avoir des conséquences sur le futur procès du leader indépendantiste?
Alors, a priori non, selon l'analyste nigérian Ikemezit Effiong, vu la gravité des charges qui pèsent contre Nnamdi Kanu, terrorisme, trahison, possession d'armes à feu, appel à la violence, entre autres, les circonstances de son arrestation et de son retour au Nigeria devraient passer au second plan de ce procès, d'autant que le leader indépendantiste a été arrêté par la DSS, les puissants services secrets nigérians, qui ont aussi supervisé son arrestation. Ceux-ci possèdent de très nombreuses prérogatives et beaucoup de latitude pour mener leurs actions.
Bodou, vous avez une autre question pour Lisa Fabian.
Effectivement. Quelle est la popularité du mouvement indépendantiste pour le peuple indigène du Biafra au Nigeria?
Effectivement, Lisa, l'OPOB ordonne régulièrement des journées villes mortes où tous les habitants des régions de l'ancien Biafra sont appelés à rester chez eux.
Oui, et ces opérations sont largement suivies, mais principalement par peur de représailles. Il y a eu des incidents très graves ces derniers mois, des assassinats d'habitants qui ne respectaient pas le couvre-feu ou qui ont été pris dans les tirs croisés de la police et des militants de l'IPOB. De nombreux véhicules et des magasins ont aussi été incendiés. En plus, ces journées villes mortes ont un coût démesuré pour les commerçants Igbo dans ces régions. Au final, seule une minorité d'habitants du sud-est du Nigeria soutient réellement la stratégie de l'IPOB, selon un sondage mené par le cabinet de recherche SBM Intelligence à Lagos. Le mouvement indépendantiste des peuples indigènes du Biafra reste donc relativement marginal, même si l'organisation a montré ces derniers mois sa puissance de frappe et sa capacité à exercer la violence. En fait, l'idée que le sud-est du Nigeria est abandonné par le pouvoir central fait consensus dans la région, mais l'alternative proposée par le mouvement indépendantiste, par l'IPOB, par contre, est loin de faire l'unanimité. Comme le résume très bien l'analyste Ikemezit Effiong, beaucoup d'habitants du sud-est souhaiteraient plutôt voir le Nigeria s'impliquer plus dans leur région pour permettre son développement, plutôt que de voir leur région faire sécession et quitter le Nigeria.
Merci beaucoup Lisa Fabian pour ces précisions. À bientôt sur l'antenne. On reparlera de ce procès de Nnamdi Kanu qui reprendra donc le 10 novembre prochain. Baudou, j'espère que votre curiosité est satisfaite. Bonne journée à tous les deux. Olivier, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez. Vous nous appelez d'Abidjan. Anissa El Jabri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyée spéciale permanente à Moscou. Olivier, vous avez la parole.
Oui, on sait que la Russie ne participera ni à la COP26 ni au G20. Et après avoir suspendu ses relations avec l'OTAN, elle annonce qu'elle ne participerait ni au G20 ni à la COP26. Alors, quel message cette Russie envoie-t-elle avec ses désengagements successifs? Et puis, quelle sera la concession de ses absences à tous ces grands rendez-vous-là?
Anissa El Jabri.
Alors effectivement, ce sont plusieurs chaises vides, en quelque sorte les unes à la suite des autres, mais ce sont à chaque fois des sujets avec des enjeux extrêmement différents. On va commencer par l'OTAN. Alors ce geste, c'est en fait tout simplement couper les ponts, hein, parce que la Russie a jugé la ligne de l'OTAN de plus en plus agressive. Hein. Ça a fait suite à l'expulsion de 8 diplomates russes de la mission auprès de l'OTAN sur fond d'accusations d'espionnage. Donc la réponse de la Russie, ça a été sur 3 structures, cette fameuse mission russe auprès de l'OTAN à Bruxelles, eh bien, elle a des activités indéfiniment suspendues. En face, eh bien, pour la mission de l'Alliance à Moscou, les activités elles-mêmes sont suspendues et les accréditations des représentants, elles sont elles-mêmes retirées au 1er novembre. Très concrètement, ça veut dire qu'ils vont devoir quitter la Russie. Et puis enfin, le bureau d'information de l'OTAN à Moscou est quant à lui fermé. Alors, il faut bien avoir en tête qu'en réalité, ça faisait déjà bien longtemps que les relations OTAN-Russie étaient extrêmement réduite. Depuis très exactement l'annexion de la Crimée par la Russie, c'était en 2014. Depuis, les réunions du Conseil OTAN-Russie étaient gelées. Et même les échanges informels étaient de plus en plus limités. Je vais vous donner un exemple. Le mois dernier, ça s'est passé lors des APAD, vous savez, ces manœuvres militaires russes. La Russie a refusé la présence des attachés militaires des pays membres de l'OTAN. Et c'était pourtant jusqu'ici une tradition. Là aussi, la raison avancée, c'était des exercices militaires de l'OTAN à proximité des frontières. Donc, en fait, en résumé, entre les sanctions, les expulsions croisées de diplomates, les accusations d'ingérence électorale, les cyberattaques, la confiance et même les petits gestes entre la Russie et l'Alliance ces dernières années, tout ça, ça s'est extrêmement abîmé. En fait, ce qui se passe, c'est que l'OTAN en elle-même sort du jeu au niveau militaire. Le seul canal d'échange de vues qui reste aujourd'hui, c'est le dialogue États-Unis-Russie. C'est pour vous dire, la tension est tellement forte que beaucoup d'analystes parlent de plus en plus de nouvelle guerre froide.
Anissa El Jabri, Vladimir Poutine a par ailleurs décidé donc de ne pas assister au G20 ni à la COP26.
Oui, alors sur le G20, il faut avoir en tête que le président chinois avait déjà fait savoir qu'il ne venait pas. Et Vladimir Poutine, on l'a déjà vu par exemple cet automne lors d'une réunion de sécurité en Asie centrale. Et bien dans ces cas-là, il ne vient pas non plus. Alors c'est un petit peu une question de standing. Hein. Il vient pas quand son homologue ne vient pas. C'est vrai qu'on peut aussi se poser la question d'une tactique commune. On a en tête que les deux dirigeants sont très liés, qu'ils se sont rencontrés plus de 25 fois. Et puis qu'ils cultivent aussi une sorte d'axe anti-démocratie libérale et qu'ils pensent chacun qu'en quelque sorte... L'horreur est venue. Alors, maintenant, c'est vrai que ce G20, il va aussi étudier un peu en avance des négociations qui vont se dérouler à la COP26 à Glasgow. Cette COP26, Vladimir Poutine n'y vient pas. C'est un petit peu plus nuancé sur ce dossier parce que c'est vrai, la Russie dépend fortement des exportations de combustibles fossiles. Le pays est vent debout contre le projet de taxe carbone aux frontières de l'Union européenne parce qu'il juge que ça cible injustement la Russie. Mais de l'autre côté, ça ne veut pas dire du tout que Moscou se désintéresse de l'environnement. Il y a eu un mouvement, en fait, hein, parce qu'il y a quelques années, le président russe plaisantait sur le réchauffement climatique. Il disait qui se plaindrait vraiment de quelques degrés de plus. Il avait en tête deux enjeux, hein, la fonte de l'Arctique et l'exploitation de ses ressources naturelles, et puis des terres en Sibérie qui pourraient devenir hautement cultivables avec ce réchauffement. Sauf que désormais, le maître du Kremlin voit aussi les dangers du réchauffement. Il a changé de discours ce mois-ci. Il a même été annoncé que Moscou viserait une réduction des émissions de gaz à effet de serre près de 80% d'ici 2050, et ça notamment en abandonnant progressivement le charbon comme source d'électricité au profit de l'énergie nucléaire.
Merci beaucoup Anissa El Jabri pour ces explications en direct de Moscou, et merci Olivier de nous avoir appelé. Bonne journée à vous. On va parler à présent de la Birmanie, où lundi dernier, la junte a annoncé la libération de plus de 5600 personnes arrêtées lors des manifestations contre le coup d'État de février. Le soir même, des centaines de détenus politiques ont recouvré la liberté, attendus par leurs familles devant les prisons. Noël, bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous êtes en ligne d'Abidjan. Sophie Brondel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice de l'association Info Birmanie. Noël, on vous écoute, vous pouvez poser vos questions.
Oui, Chantal, je voudrais savoir qu'est-ce qui justifie cette décision 8 mois après le putsch. Et peut-on voir en cette décision un signe de l'assouplissement de la position de la junte face à la pression de la communauté internationale?
Sophie Brondel, alors pourquoi cette amnistie massive? Et d'abord, est-ce que l'on sait exactement combien de personnes en ont bénéficié?
Oui, alors il est difficile d'avoir le chiffre exact, mais l'association birmane AAPP qui suit le nombre de détenus, le nombre de libérations, a noté environ 320 libérations depuis cette annonce, donc un chiffre nettement inférieur à celui qui est annoncé. Il faut savoir qu'il n'y a pas de liste transparente sur les libérés, et donc pour le moment, il s'agit plus d'un effet d'annonce dont on est assez coutumier de la part de la junte birmane. Pour replacer la décision dans son contexte, il faut souligner que la junte fait face en fait à une décision sans précédent de l'ASEAN, qui est le regroupement régional des État de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, qui vient de bloquer la venue du chef de la junte Min Aung Hlaing au prochain sommet régional. Donc c'est une décision sans précédent et un véritable camouflet pour la Birmanie, qui compte traditionnellement sur les pays de l'ASEAN pour la soutenir de manière indéfectible, comme la Chine et la Russie. Donc on pourrait voir cette décision comme une sorte d'effet d'annonce suite à ce camouflet. Toujours est-il qu'il faut vraiment insister sur le fait qu'il n'y a pas de signe d'assouplissement de la position des autorités militaires. Pour le moment, la répression va en s'accentuant. Tout récemment, le rapporteur spécial de l'ONU sur la Birmanie accuse la junte de masser des dizaines de milliers de troupes et d'armes lourdes dans le nord du pays, et on redoute une intervention massive de la junte dans cette région pour mater les forces de défense civile qui tentent par les armes en fait de lutter contre la junte. Donc on est plutôt dans un contexte d'augmentation de la répression, et donc une annonce de libération de prisonniers politiques qui n'augure pas forcément d'une amélioration. Cela va sans dire. Il faut aussi souligner qu'il y a plus d'une centaine de détenus qui ont été libérés et qui, dans la foulée, ont été de nouveau arrêtés aussitôt. Et les familles de ces prisonniers politiques et les prisonniers politiques eux-mêmes dénoncent une véritable torture mentale face à cet arbitraire, à la fois lors de libération de personnes qui n'ont rien à faire en prison et ensuite de leur arrestation une deuxième fois, qui est évidemment terrible pour toutes ces personnes.
Donc au final, si je fais bien les soustractions, ce ne sont pas 5600 personnes qui ont été libérées, mais 220. Donc on est très très loin du compte.
Oui, alors 320, mais il est impossible 320, en fait, d'avoir
moins,
les chiffres
moins
exacts.
Moins les 110
mais...
qui auraient de nouveau été arrêtés.
C'est vrai que je n'ai pas fait la soustraction, merci de l'avoir faite. Et effectivement, il faut aussi souligner qu'en juin dernier, la junte avait annoncé la libération de plus de 2000 prisonniers politiques, et au final, seuls 372 avaient été vérifiés par l'AAPP, donc cette association birmane qui suit de très près la situation des détenus. Donc vous voyez, on est loin du compte.
Sophie Brondel, dernière question rapidement. Est-ce que la dirigeante renversée le 1er février, Aung San Suu Kyi, qui a 76 ans, est toujours assignée à résidence et totalement isolée?
Oui, elle est toujours assignée à résidence, complètement isolée. Son avocat n'a même plus le droit de s'adresser aux médias et de fournir quelques informations sur sa situation. Et donc, effectivement, la société civile birmane demande, et la société civile internationale demande la libération de tous les prisonniers politiques. Et ce n'est que à ce moment qu'on pourra considérer que la junte est en train de prendre des mesures pour remédier à la crise qui ne cesse de se dégrader malheureusement sur tous les fronts. Économique, situation des droits de l'homme et situation de combat qui ne cesse de s'amplifier à travers le pays.
Merci beaucoup Sophie Brondel, coordinatrice de l'association Info Birmanie, d'avoir répondu à nos questions. Noël, merci de nous avoir appelé d'Abidjan. Bonne journée à tous les deux. Donald Trump évincé de Facebook, Twitter et YouTube après l'attaque du Capitole le 6 janvier dernier, a décidé de lancer son propre réseau social, Truth Social, dont l'appli est déjà disponible en précommande sur l'Apple Store. Delphin, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez d'Abomey Calavi au Bénin. En ligne avec nous.
Exactement.
En ligne avec nous, Fabrice Eppelboin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant et entrepreneur, spécialiste des réseaux sociaux. Delphin, quelles sont vos questions pour Fabrice Eppelboin?
Oui, merci. Pourquoi cette application est-elle lancée sur Apple? La firme peut-elle contrôler d'éventuels débordements?
Alors Fabrice Eppelboin, techniquement, comment Donald Trump peut-il créer son propre réseau social?
Techniquement, c'est relativement simple. Il semble à ce stade que le réseau social de Donald Trump soit une instance d'un réseau social existant, Mastodon, qui est un logiciel libre. Et donc, tout le monde peut s'approprier ce logiciel, l'utiliser comme bon lui semble. C'est le principe du logiciel libre. Et du coup, d'un point de vue strictement technique, ça ne lui a pas coûté grand-chose. Il s'appuie qui plus est sur un mécanisme de financement qui lui permet de lever des fonds très rapidement à Wall Street et apparemment avec un très grand succès.
Donc ça veut dire qu'en fait il va faire d'une pierre deux coups, diffuser à nouveau ce qu'il appelle ses vérités et gagner de l'argent.
Tout à fait. Il va financer très lourdement un réseau social qui sera le sien. Ceci dit, il lui restera une barrière à l'entrée, c'est que pour distribuer ce réseau social, il faut qu'il passe par l'Apple Store ou le Google Store. Et là, il va à nouveau rencontrer les GAFAM.
Donc ça veut dire qu'il ne pourra pas, comme il le souhaite, dire tout ce qui lui passe par la tête sur Truth Social, son réseau social.
Sur son réseau social, il pourra dire ce que bon lui semble, d'autant plus qu'il y aura vraisemblablement d'autres façons d'accéder à ce réseau social, tout comme on peut accéder à Twitter, à la fois par une application mobile et par le web. Par contre, pour distribuer son application, il va devoir s'en remettre au force coding d'Apple et de Google, qui ne sont pas particulièrement tendres, ni avec Donald Trump, ni avec qui que ce soit du reste.
Donc ça veut dire qu'il pourrait être à nouveau privé de parole, ou est-ce qu'il pourrait être sanctionné financièrement ou pas? Qu'est-ce qui pourrait se produire?
Sanctionné financièrement, certainement pas, mais par contre, censuré, tout à fait. Tout comme une multitude d'applications ont été censurées pour différentes raisons. Arriver sur l'Apple Store, c'est assez complexe et on doit se plier aux règles d'Apple. Typiquement, il est hors de question de montrer un bout de sein sur des applications Apple. C'est d'ailleurs pour cette raison que les applications comme Instagram appliquent une politique de modération très sévère là-dessus. Il faut se plier aux règles édictées par Apple.
Donald Trump dénonce la tyrannie des géants du numérique qui, dit-il, ont utilisé leur pouvoir unilatéral pour réduire au silence les voix dissidentes en Amérique. Est-ce que les big tech, comme on les appelle, sont plus forts que le premier amendement de la Constitution américaine qui garantit la liberté d'expression?
Ça se décide en ce moment. Il fut une époque où le premier amendement de la Constitution américaine avait force de loi divine. Aujourd'hui, effectivement, ça n'est plus vraiment le cas. Et puis les big tech ont un pouvoir considérable que beaucoup considèrent comme supérieur à bon nombre de nations. Typiquement, sur le continent européen, aujourd'hui, on a une offensive sur le cloud, c'est-à-dire toute l'infrastructure qui sous-tend l'informatique des industries et des entreprises européennes, et qui va petit à petit aspirer l'ensemble des profits que génère ce même cloud au profit du continent américain. Donc on est face à un rapport de force entre le politique et la technologie, dans lequel Donald Trump s'est jeté à corps perdu, mais qui va bien au-delà de cette petite problématique de Donald Trump.
Alors en lançant son propre réseau social, est-ce que Donald Trump, selon vous, vise déjà la présidentielle de 2024?
Une chose qui est claire, c'est qu'il ne pourra pas refaire ce qu'il a fait avec les réseaux sociaux pour la prochaine présidentielle. Donc, il aura besoin d'autre chose. Le fait d'avoir son propre réseau social n'est pas forcément une mauvaise idée, surtout à un moment où ces mêmes réseaux sociaux censurent à tout va, de façon plus ou moins cohérente et de façon plus ou moins démocratique.
Merci beaucoup, Fabrice Eppelboin, d'avoir répondu à nos questions.